Coulisses politiques avec Henri Vernet.
La dernière fois que la France a été dirigée par un président de droite, c'était Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012. 15 ans après, les Républicains peuvent-ils espérer voir l'un des leurs s'installer dans le fauteuil d'Emmanuel Macron l'année prochaine ? Bruno Retailleau a été désigné candidat des LR par les militants du parti sans avoir eu besoin de passer par une primaire. Mais à droite, d'autres que lui ont des ambitions pour 2027. David Lisnard et Laurent Wauquiez. Édouard Philippe, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, distancie ses concurrents dans les enquêtes d'opinion. Et puis, il y a un outsider, Dominique de Villepin, mais est-il toujours à droite ? Bonjour à tous, je suis Loïc Barrière. Coulisses politiques, c'est une émission et un podcast disponible sur votre radio, sur Spotify, radioorient.com et nos réseaux sociaux. Comme chaque semaine, nous retrouvons le journaliste et écrivain Henri Vernet. Bonjour.
Bonjour.
Alors après sa désignation par 73% des militants, Bruno Retailleau s'est dit légitimé par sa famille politique. Il estime que ses convictions correspondent à beaucoup d'aspirations des Français, mais le chemin pour accéder à l'Élysée ne sera pas facile pour le patron des Républicains. Il lui faudra rassembler son camp et rallier le centre. Si l'on en croit les sondages, Édouard Philippe est le plus à même de se qualifier au second tour. Avant d'évoquer Bruno Retailleau, dans quel état se trouve la droite aujourd'hui, Henri ? On se rappelle qu'en 2022, Valérie Pécresse n'avait obtenu que 4,78% des voix. Finalement, quel est l'espace politique de la droite à un an de l'élection présidentielle ?
Ben c'est bien tout le problème. Cet espace politique, il est réduit. En réalité, il est un peu coincé. Donc si on passe à LR, les Républicains, les héritiers quand même de l'UMP et puis plus lointainement du grand parti gaulliste RPR, ils sont coincés donc entre d'un côté, vous l'avez évoqué, le macronisme, hein, c'est-à-dire le parti présidentiel, ce mouvement des marcheurs qui a donc été lancé par Emmanuel Macron en 2017, qui s'est d'ailleurs lui-même au fil des mandats et du temps droitisé, donc qui a grignoté beaucoup sur cet espace de LR, beaucoup d'ailleurs d'anciens Républicains se sont ralliés, ont été et sont encore ministres donc d'Emmanuel Macron, à commencer par le premier d'entre eux, Sébastien Lecornu, un ancien LR. Donc d'une part, d'un côté, il y a cette attraction de la Macronie, du macronisme, pourrait-on dire, et puis de l'autre, bien évidemment, un mouvement qui travaille depuis encore plus longtemps, qui est le Rassemblement National, et donc déjà avant le FN, donc de Jean-Marc Marie Le Pen, la digue existait à cette époque-là, mais à partir du moment où il a passé de la main et où c'est Marine Le Pen qui a pris le parti, et ben peu à peu, on a vu ce grignotage qui est devenu davantage qu'un grignotage. Aujourd'hui, Marine Le Pen-Bardella, avec le Rassemblement National, et ben c'est l'autre pôle d'attraction, gros pôle. Alors là, on est dans l'extrême droite. Néanmoins, c'est eux qui encadrent et grignotent, voire dévore de plus en plus cet espace à droite. Alors, si on s'en tient aux chiffres et qu'on prend, par exemple, comme paramètre les dernières élections européennes de 2024. Alors, pourquoi les européennes ? Parce que c'est vraiment le scrutin où chaque parti se présente, se présente en son nom propre, au nom du parti. Eh bien, les Républicains, ils ont fait... alors, c'était François-Xavier Bellamy qui tirait la liste. Ils ont fait, en gros, 8,5%. Évidemment, avant, on peut prendre aussi comme repère le score de Valérie Pécresse à la présidentielle de 2022, où elle n'atteint pas les 5%, on s'en souvient, hein, une vraie gifle pour cette droite, quand même, la droite de gouvernement que sont les LR. Bon, bref, on voit que électoralement, c'est ça que pèse aujourd'hui ce parti, les LR. Donc c'est quand même un espace qui, d'une part, est réduit. Hein, on n'est vraiment plus dans la période historique où ce parti de gouvernement était systématiquement présent au second tour de la présidentielle. Ben là, ce n'est pas le cas, ce n'est plus le cas depuis 2012. Et d'autre part, vous l'avez rappelé, ce camp-là n'a pas eu de président depuis Nicolas Sarkozy, donc depuis 2012.
Alors Henri, le 21 septembre 2024, Bruno Retailleau était nommé ministre de l'Intérieur au sein du gouvernement Barnier. Il a quitté la place Beauvau un an plus tard, le 5 octobre 2025, à la suite d'un désaccord avec Sébastien Lecornu sur la composition du gouvernement. Pendant son année au ministère de l'Intérieur, il s'est livré à un bras de fer avec l'Algérie sur les reconduites à la frontière. Il a également essayé de livrer une guerre au narcotrafic. C'est aussi durant cette période, il ne faut pas l'oublier, qu'il est devenu président des Républicains après avoir battu Laurent Wauquiez. Je rappelle que Bruno Retailleau est sénateur, qu'il a longtemps été proche de François Fillon. Que retenez-vous de son parcours ?
Ce qu'on peut retenir, c'est que, vous l'avez dit, il a été proche de François Fillon. Il avait été notamment joué un rôle important durant sa campagne présidentielle en 2017. Il était également proche et un lieutenant de Philippe de Villiers. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un conservateur résolu. C'est quelqu'un qui a toujours été dans le camp conservateur. Quand même dans un monde politique où parfois les hommes et les femmes politiques évoluent. Je citais là tout à l'heure tous ceux qui, par exemple, venant de cette famille, sont passés dans le camp macroniste, au service d'Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs également vrai pour nombre de personnalités de gauche et du PS.
On se rappelle, par exemple, de Bruno Le Maire. C'était très surprenant de le voir nommé ministre
bien
de l'économie.
Sûr. Bruno Le Maire et bien d'autres. Gérald Darmanin, qui était le lieutenant de Nicolas Sarkozy pendant ses campagnes. Donc, il y a eu des passages comme ça très, très visibles. Et puis, le cornu que j'évoquais en début d'entretien. Donc, bref, c'est vrai qu'un Retailleau, lui, c'est quelqu'un qui est vraiment ancré dans le conservatisme et disons vraiment la droite très traditionnelle, catholique, chrétienne en tout cas, donc qui cultive ces valeurs-là et qui n'en a jamais varié. En même temps, quand je vous dis ça, on a donc évoqué les noms de Philippe de Villiers, qui lui aujourd'hui est devenu carrément un ultra, mais qui n'a plus de ultra-conservateur, mais qui n'a plus vraiment de rôle sur la scène politique, et François Fillon lui aussi sorti. Mais ça montre aussi que pendant longtemps, il était un lieutenant, Bruno Retailleau. C'est pas quelqu'un qui était habitué à la lumière. Et donc, ce qu'on peut retenir de son parcours, c'est que oui, d'un seul coup, quasiment, parce que il était un sénateur relativement incontournable, comme on dit, c'est quelqu'un qui pesait dans les débats de son parti.
Président de son groupe au Sénat.
Exactement. Donc c'est comme ça qu'il a commencé vraiment à s'imposer. Le Sénat ayant joué un rôle assez important sous les demandes à Macron. Mais c'est vraiment au moment où il est nommé au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, c'est là qu'il prend la lumière. Et notamment avec ce match, c'est peut-être un peu curieux de le dire comme ça, mais qu'il instaure avec l'Algérie sur plusieurs thèmes. D'abord les OQTF, les fameuses obligations de quitter le territoire français qui n'étaient pas assez appliquées aux yeux de lui comme ministre de l'Intérieur. Donc c'est vraiment un vrai duel qu'il engage là avec Alger, avec des épisodes assez marquants, comme par exemple lorsqu'il renvoie différents OQTF dont un prêcheur islamiste et qui sont refoulés sur le tarmac de l'aéroport d'Alger. Évidemment, il prend la France à témoin, Retailleau, en parlant d'une humiliation de la France. Et puis, évidemment, le cas Boualem Sansal.
Donc l'affaire Boualem Sansal, on se rappelle que l'écrivain emprisonné n'a été libéré qu'après le départ de Bruno Retailleau de la place Beauvau.
C'est une illustration parfaite de ce que j'appelais le match entre Alger et Bruno Retailleau, parce que véritablement, le régime algérien, la presse qui suit le pouvoir, mais même Abdelmadjid Tebboune, le président, l'avait cité, et il était souvent cité, alors pas forcément nommément, mais vraiment désigné de manière explicite, et c'était la cible à atteindre pour ce régime, en gros, en accusant à travers Bruno Retailleau. Il est même arrivé, c'était une fois, un communiqué au plus fort de cette crise franco-algérienne qui s'est à peine atténuée, mais enfin qui a été extrêmement profonde. C'était vraiment lui qui était visé, et dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien, on avait même parlé de relents, de dérives quasiment d'extrême droite, dont il aurait été l'instigateur. Donc vraiment, ce bras de fer allait très loin. Mais vous savez, c'est comme ça aussi, souvent en politique, quand vous prenez un adversaire, par exemple, on citait tout à l'heure Villepin, pour tout à fait d'autres raisons, mais quand Villepin, il y a maintenant, au début des années 2000, s'était opposé à la politique américaine de Bush Junior, c'est comme ça que Villepin avait pris la lumière et était devenu populaire. Donc il y a aussi cet aspect-là. Quand vous prenez un adversaire qui est de taille et qui fait parler dans les médias, ça vous hausse votre stature.
Alors, Henri Vernet, Bruno Retailleau a pris la lumière en devenant un ministre de l'Intérieur très visible, et on a été surpris des conditions de son départ du gouvernement. Il est retombé un peu dans un peu plus d'obscurité à ce moment-là.
Oui, c'était d'ailleurs clairement une faute tactique politique. Hein. C'est vrai qu'il était parvenu vraiment au fait hein, d'une popularité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il s'était vraiment affirmé, au point d'ailleurs que c'est par cette affirmation, c'était vraiment, il était en gros celui qui était la, non pas la caution, vraiment qui menait la politique de droite au sein d'un gouvernement qui est malgré tout resté celui d'un président allé de centre-droite, Emmanuel Macron, et il est resté sous les deux gouvernements, hein, celui de Michel Barnier, alors clairement de droite, LR, puis celui du centriste en François Bayrou. Et donc lui, il était celui qui menait cette politique, en tout cas par sa façon d'être, sa façon de communiquer, parce qu'il a toujours eu son agenda personnel. C'est comme ça qu'il s'était fait élire, alors qu'il était encore place Beauvau, à la tête du parti LR, à la tête des Républicains, contre Laurent Wauquiez, qu'il avait véritablement écrasé dans cette élection interne. Et donc là, il a, au moment, comme vous le dites, où il a quitté le gouvernement, il a sans doute commis une faute tactique, parce que d'abord, personne n'a compris pourquoi il est sorti. En réalité, il est sorti à la faveur de la formation, je ne sais même plus si c'était le premier ou le deuxième gouvernement.
C'était le premier gouvernement.
Voilà, parce que rappelez-vous quand même cette espèce de d'instabilité politique un peu permanente qu'il y a eu pendant plusieurs mois.
Quand Sébastien Lecornu avait choisi Bruno Le Maire pour le remplacer au ministère de la Défense.
C'est ça. Et Bruno Retailleau en a tiré prétexte pour dire mais non, ça veut dire qu'on fait revenir pour lui les figures, comment dire, les plus marquantes du macronisme, et notamment ce qu'il reprochait ouvertement à Bruno Le Maire, c'est être l'homme de la dette et donc de l'affaiblissement de la France. Mais il a pris ce prétexte, mais sauf que, franchement, le grand public, là, il a pas bien compris. Et donc, cette sortie, cette vraiment prise de position très, très virulente, bah, finalement, ça a été accueilli avec, dans l'opinion de manière générale, avec une relative indifférence. Et finalement, bah, il était plus sous les feux de la rampe au quotidien, comme il l'était au ministère de l'Intérieur. Et oui, pendant un certain temps, il y a eu un vrai effacement de Bruno Retailleau.
Alors, Bruno Retailleau a été effectivement un peu effacé dans les médias. Il revient maintenant conforté par sa désignation comme candidat des LR à l'élection présidentielle. Et Bruno Retailleau a commencé à décliner son programme. On va écouter un discours offensif qu'il a tenu sur l'Espagne qui veut régulariser 500 000 immigrés. C'était sur LCI.
Les députés macronistes avaient d'ailleurs refusé de voter le financement des barrières physiques, justement, dans les frontières, aux frontières extérieures de l'Europe. Moi, je pense qu'il y a un énorme problème aujourd'hui avec les Espagnols, Monsieur Sanchez. Ils régularisent 500 000 irréguliers qui vont pouvoir ensuite franchir les frontières, évidemment. Mais je le mettrai au banc des nations européennes, déjà, parce que nous sommes désormais une majorité. Je rétablirai les contrôles aux frontières.
Alors on vient d'entendre cet extrait de Bruno Retailleau qui veut mettre l'Espagne au banc des nations européennes et qui veut rétablir les contrôles aux frontières. Toujours sur LCI, le candidat des Républicains à l'élection présidentielle a proposé de consulter directement les Français sur l'immigration.
C'est la raison pour laquelle je proposerai de changer la Constitution. Toutes celles et ceux qui diront aux Françaises, pendant cette campagne et aux Français, pendant la campagne électorale, présidentielle, on va bouleverser les règles en matière migratoire, on va les bouleverser par exemple sur la justice des mineurs. S'ils ne changent pas, s'ils n'assument pas de changer la Constitution, ça veut dire qu'ils ne feront rien. Je veux renverser la table et ce que je veux faire, c'est donner aux gens, aux Français, le pouvoir d'agir par eux-mêmes, de choisir leur politique migratoire, de choisir leur politique pénale, par justement le référendum notamment.
Bruno Retailleau veut renverser la table, consulter directement les Français sur ces questions d'immigration ou de justice. On l'a entendu parler de l'Espagne il y a quelques instants. Cela correspond à ce qu'attendent une partie des Français ?
Je parle de sondage. Il faut quand même rappeler que ces questions d'immigration, enfin que vient d'évoquer là Bruno Retailleau, elles sont pas en tête des préoccupations. Hein. Ce qui préoccupe les Français, c'est d'abord le pouvoir d'achat. Ce sont vraiment ces questions-là. Alors la sécurité, oui, mais pas toujours en premier lieu. Donc là, tout ce que vient d'évoquer Bruno Retailleau, oui, ça parle toujours, disons en tout cas, à une partie des Français, notamment à son électorat, on peut le supposer, l'électorat de droite, et puis celui qu'il veut siphonner siphonné, parce qu'en réalité, Retailleau, il rêve un petit peu de refaire l'opération Sarkozy de 2007. Hein, c'est-à-dire, en 2007, le candidat Nicolas Sarkozy, il siphonne les voix du Rassemblement national. Enfin, à l'époque, c'est encore le Front National. Et c'est comme ça qu'il se fait élire assez largement, parce qu'il a à la fois le camp de droite, hein, centre-droite certainement, mais également nombre de voix qui étaient... qui étaient passées plutôt à l'extrême droite pendant, depuis le début des années 2000. Donc Sarkozy a réussi ça, et c'est le modèle, hein, très clairement, que veut reproduire Bruno Retailleau. C'est pour ça d'ailleurs que dans son... Comment dire, qu'il a des mots pareils comme renverser la table, que son slogan, l'intitulé en quelque sorte de son programme électoral aujourd'hui, c'est une radicalité raisonnable. C'est un oxymore, hein, comme il en apparaît assez régulièrement dans les, comment dire, dans les campagnes. Hein. On a déjà connu ça finalement depuis Valéry Giscard d'Estaing avec son changement dans la continuité en 1974. Donc, mais c'est vrai que c'est un oxymore, enfin c'est une formule qui marque, quoi, radicalité. Alors raisonnable, ça veut dire sans non plus bouleverser tout l'ordre qui existe en France. C'est quand même assez important, parce que rappelons-nous que Bruno Retailleau, alors qu'il était ministre de l'Intérieur, avait quand même dit que l'état de droit, c'est ni sacré ni intangible. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est prêt à aller loin dans sa volonté. Et puis alors là, les deux exemples qui sont pris, alors si vous voulez bien, commençons par l'Espagne. Hein. Ce qu'il dit sur l'Espagne, là, qui va la mettre au banc des nations, qui va fermer les frontières, même s'il l'explicite un tout petit peu sur LCI, ça marche pas comme ça, l'Europe. Une fois que vous êtes aux affaires, aux commandes, vous devez tenir compte de ce cadre-là, des règles européennes. Mais c'est vrai que forcément, c'est un langage qu'on entend, et que pour, comme vous le disiez, ceux des électeurs qui sont sensibles à ces thèmes-là, ils retiennent ça, ils retiennent ce propos choc de Bruno Retailleau. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Parce qu'en plus, c'est une rupture pour le coup avec toute la politique des gouvernements d'Emmanuel Macron depuis presque 10 ans maintenant. Et pour lui, ce qui est important, c'est ça, c'est d'établir, lui en plus qui a été ministre de ce président, ce qui importe pour lui, c'est ça, c'est vraiment de marquer une rupture avec le macronisme pour vraiment s'affirmer à droite.
Et en même temps, ce qu'il propose n'a pas été fait par Nicolas Sarkozy ou Jacques Chirac. C'est-à-dire qu'il est en train de changer aussi les orientations politiques de sa sensibilité. Il ne va pas jusqu'à proposer le Frexit, par exemple.
Ah non, mais ça, les Français ne le demandent pas du tout. Hein. Je pense que parce que le Frexit, là, pour le coup, ce serait une éventuelle sortie de la France de l'Union européenne. Mais ça, même Bardella et Marine Le Pen ne le demandent pas non plus. On sait que aujourd'hui, les Français, enfin, là, on fait une parenthèse, hein, mais les Français ont plutôt vécu l'Europe par rapport comme un élément de protection par rapport aux graves crises économiques qui se sont succédées et qui sont encore là. Non, en revanche, c'est vrai que là où il va très loin, et par rapport notamment à ce que vous cité, hein, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, c'est vrai qu'en matière de politique migratoire, de sécurité, il est prêt, dit-il, c'est même pas qu'il est prêt, c'est qu'il s'engage à réformer la Constitution, à aller en effet très loin, à renverser la table, comme il dit. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ses prédécesseurs ? Parce que justement, vous avez ce cadre de l'état de droit, d'une part en France, vous avez ce cadre européen, il se trouve qu'on est encore, on est dedans. Donc, alors c'est vrai que sur certains dossiers, vous pouvez toujours essayer de négocier avec la Commission, avec des exceptions, mais là, on n'est pas dans ce cadre-là. Ce qu'il dit aussi, par exemple, tout à l'heure, si on reste sur l'exemple de l'Espagne, il précise que il pourrait donc mettre le pays du socialiste Pedro Sanchez au banc des nations, parce que donc il le juge trop laxiste en matière d'immigration, puisque donc ce pays s'apprête à régulariser 500 000 travailleurs aujourd'hui clandestins. Et il dit que pour faire ça, il pourrait s'entendre avec ceux des pays européens qui sont déjà gouvernés par cette droite dure, et le fait est qu'il y en ait, à commencer par l'Italie de Giorgia Meloni. Mais enfin, laquelle Meloni, elle aussi, comme Sanchez, s'apprête aussi à accueillir des centaines de milliers de travailleurs immigrés. Donc voilà, on voit bien que l'exemple n'est pas forcément très probant. Mais oui, là où il est en effet assez déterminé dans son engagement, c'est que justement, il dit que rien n'est possible si on ne change pas la Constitution. dans ces domaines-là. Et donc, c'est son arme à lui, c'est de dire voilà ce que je vais faire. Cela dit, c'est aussi ce que dit une Marine Le Pen et ce que dit un Jordan Bardella. On verra bien lequel des deux sera le ou la candidate. Mais de ce côté-là, il est vraiment sur une ligne de droite dure.
Alors la droite dure, c'est aussi la lutte contre le narcotrafic. Je vous propose d'écouter une déclaration choc de Bruno Retailleau qui s'est rendu à Nanterre et qui a parlé des trafiquants de drogue.
Ce sont des quartiers qui seront bouclés 24 heures sur 24, où on pourra contrôler les entrées et les sorties en demandant une fois au procureur de la République, mais sans demander chaque jour une autorisation au procureur de la République. Mais on concentrera les moyens des policiers, les moyens des gendarmes mobiles sur ces quartiers-là. Et s'il faut les garder, et s'il faut faire sortir des véhicules blindés de la gendarmerie nationale, je pense par exemple au Centaure, nous le ferons.
Alors on l'a entendu, Bruno Retailleau insiste sur les questions régaliennes. Sa proposition de boucler les quartiers où sévissent les trafiquants de drogue, d'envoyer les blindés de la gendarmerie, vous pensez que ça peut prendre auprès d'une certaine catégorie de Français ?
Les Français, ce qu'ils constatent, c'est que bien sûr qu'ils ont ce besoin, cette envie que de tels fléaux soient sinon réglés, en tout cas vraiment contenus, hein, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas que la France qui en prend un narcotrafic, donc personne n'est totalement naïf, hein, c'est une telle industrie, ce sont de telles sommes de centaines de milliers de milliards qui sont là, que voilà, les gouvernements sont en proie à cela et ils agissent. Mais c'est vrai qu'au moins le réduire, au moins tous les gens qui sont confrontés à des cartes où il y a des points de deal qui sont, comment dire, qui subissent au quotidien. Bien sûr qu'eux, ils peuvent écouter un tel langage. Et c'est vrai que là, il emploie des mots-clés, hein, qui sonnent fort, comme boucler les quartiers, envoyer les blindés. Bon, mais là aussi, ça pêche quand même avec une réalité, c'est qu'on ne peut pas dire que le gouvernement actuel ne fasse rien, n'agisse pas. Je veux dire, quand vous écoutez un Gérald Darmanin, donc ministre de la Justice aujourd'hui, ou Laurent Nunez, mais en tout cas Darmanin qui vient lui aussi de la droite, quand on voit aussi les déplacements d'un Emmanuel Macron à Marseille, justement pour mettre un peu le paquet sur les trafics, sur les narcotrafics, avec quand même la création en début de cette année même d'un parquet donc de magistrats, hein, spécifiquement sur les narcotrafics pour lutter contre ces réseaux-là. On ne peut pas dire qu'il y a une inaction. Mais c'est vrai que lui, il emploie, Retailleau, des images choc, mais comme d'ailleurs, en effet, pourraient le faire ses rivaux à l'extrême droite. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, ben oui, il n'y a que vraiment que la manière forte, mais la manière forte au sens où, mais comme il l'évoque lui-même, il faudrait changer les contours juridiques et judiciaires en France. Et donc, c'est pour ça qu'il le dit bien. Moi, ben oui, j'agirai sur la Constitution pour, en quelque sorte, que l'état de droit tel qu'on le connaît aujourd'hui, peut-être se rétrécisse un peu, ou en tout cas soit moins, soit mal moins large sur les libertés publiques et individuelles, pour avoir des moyens extrêmement forts. Ce qu'il évoque là, c'est des moyens militaires, hein, c'est pas autre chose. Parce que, bien sûr, oui, la gendarmerie, d'ailleurs, les gendarmes, les blindés dont il parle, désormais, ça relève du ministère de l'Intérieur, mais enfin, pendant longtemps, c'était l'armée. Et ça compte. Quand il évoque son état d'urgence, c'est quand même à ça qu'on pense, c'est-à-dire passer un peu dans une autre dimension. En somme, finalement, ça fait un peu penser à ce que fait Donald Trump avec ses brigades ICI, enfin, qui sont contre l'immigration clandestine, mais également quand il déploie la garde nationale dans des villes. Enfin, ce sont des images fortes comme ça qu'utilise Bruno Retailleau.
Alors, Bruno Retailleau devra convaincre les Français qu'il est l'homme de la situation, mais auparavant, il devra rassembler son camp. À droite, les candidatures à la présidentielle ne manquent pas, les gens qui y pensent très fortement, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez. J'aimerais qu'on s'arrête sur David Lisnard, le maire de Cannes. Qu'est-ce qui le différencie de Bruno Retailleau ? Quelle offre politique nouvelle apporte-t-il ? Il se veut libéral. Est-ce qu'il est dans la droite ligne d'Alain Madelin ? Je me rappelle d'une image assez forte. On l'a vu mettre du papier dans une machine à broyer des documents pour montrer qu'il veut en finir avec la bureaucratie. Olivier Faure a accusé David Lisnard d'imiter Javier Milei avec sa tronçonneuse.
Oui, il y a de ça. C'est vrai que c'est un libéral qui s'assume. Et ça, c'est quand même un courant de pensée et d'action qui est peu populaire, finalement, en France. En tout cas, qui est peu répandu. Parce que regardez, quand on parle de présidents libéraux, ça a été le cas hein, de Macron, de Giscard, bien avant lui. Lui aussi, on avait dit cela. En réalité, on voit bien que les gouvernances restent, que ce soit à droite, centre, centre-gauche, tout cela reste finalement assez étatiste. Et David Lisnard... C'est vrai qu'il s'inscrit vraiment en rupture par rapport à ça. Lui, il veut prôner un véritable libéralisme. Alors, à la Milley, peut-être, ça, c'est pas très populaire en France. Il n'est pas le seul, Éric Ciotti aussi avait pris la tronçonneuse du président argentin Milley comme
et
modèle.
Et puis, il y a la référence aussi au Dodge qui avait été créé par Elon Musk, la réduction des moyens de l'État.
C'est ça. Et ça, c'est vrai que c'est une pensée qui gagne un peu. Hein. Il y a aussi cet ancien ministre assez éphémère, hein, macroniste, Kasbarian, qui était à la fonction publique et qui avait aussi ce genre de prétention et j'allais dire un peu de formule comme ça à l'emporte-pièce, parce que je suis pas sûr que ça paye en France. Hein, les Français, tout à l'heure, vous évoquiez est-ce que ça leur parle, telle ou telle mesure de sécurité. Tout ce qui est en tout cas en économie et tout ce qui est libéral et ultra-libéral, ça leur plaît pas trop parce que ça veut dire sabrer dans beaucoup de choses. Après, non, ce que met en avant David Lisnard, et c'est vrai que là-dessus, il imprime sa marque, c'est que il assume ça, vraiment une politique qui serait libérale, qui libérerait l'entreprise. C'est vrai que de ce côté-là, la droite, elle promet beaucoup et finalement, parfois, notamment les entrepreneurs hein, sont déçus parce qu'ils ont encore beaucoup d'impôts de production parmi les plus élevés et donc de ce qu'ils appellent les charges, qui sont souvent des cotisations, c'est vrai qu'elles restent à un niveau très élevé en Europe. C'est vrai que la réglementation française, elle est parfois aussi... Enfin, elle rajoute de la complexité à la réglementation européenne. Enfin, bref, voilà, lui, il veut en finir avec tout cela. Il y a cet aspect-là. Il veut aussi supprimer... vous savez, c'est ce fameux exemple du nombre d'agences publiques qui se surajoutent au ministère en France. Je crois que lui-même en a dénombré 90. Il dit qu'il les supprimerait tout, mais il n'est pas le premier à promettre ça.
Et j'aimerais terminer cette émission avec Dominique de Villepin, Henri Vernet. C'est le candidat de droite préféré des gens de gauche.
Est-ce qu'il est de droite, Dominique de Villepin ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a le droit de se poser la question. On peut le classer comme ça parce qu'évidemment, il a été à la fois le ministre des Affaires étrangères, bon, avec le fameux non à l'ONU, à la guerre de George Bush Jr. En Irak. Donc, et puis, il a également été le premier ministre de Jacques Chirac. Donc, en cela, oui, il est de cette famille historique. J'allais dire Golo, UMP, LR, mais enfin, ça fait longtemps qu'il est en rupture de banc par rapport à cela. Il n'est pas tenu comme quelqu'un de la famille par les LR, clairement pas. Il y a plutôt de une certaine animosité et incompréhension envers un Dominique de Villepin par les positions qu'il peut prendre. C'est vrai, vous dites, c'est sans doute le candidat, alors de droite, pour reprendre cette image, préféré à gauche. Oui, mais notamment justement pour ses prises de position sur l'international.
Applaudit notamment à la fête de l'humain.
Mais bien sûr, parce que il a des positions très fermes par rapport à Israël, enfin par rapport surtout à la politique de Benjamin Netanyahou. Ça, il la dénonce et il la condamne très clairement. Avec Villepin, c'est un tribun, hein, c'est quelqu'un qui a des grands accents, il a un côté, c'est un peu d'Artagnan, hein, donc il est comme cela, il peut rallier les foules. Et, vous savez, Dominique Villepin, c'est un peu typiquement quelqu'un qui a une bonne cote de popularité, mais ça ne se traduit pas en intention de vote. Attention, ce ne sont que des sondages, on n'est pas dans les campagnes. Pour l'instant, il y a très peu de candidats véritablement déclarés, même s'il y a pléthore de candidats qui se préparent à rentrer dans l'arène. Donc tout ça va forcément évoluer et se décanter. Mais voilà, est-ce que un Dominique de Villepin, d'autres que lui, seront sur la ligne de départ, c'est-à-dire auront... Déjà, le financement, c'est très important. Hein. Tout à l'heure, j'évoquais, en début d'entretien, on évoquait la présidentielle 2022, où il y a quand même eu des surprises cuisantes pour des grands partis, au sens parti de gouvernement comme le PS et LR, dont les deux candidates, en l'occurrence Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, n'ont pas franchi la barre des 5%, c'est-à-dire n'ont pas obtenu le remboursement par l'État de leurs dépenses de campagne. Donc tout ça, ce sont des éléments qui comptent. Et puis les parrainages, c'est vrai qu'il faut aussi les obtenir.
Merci, c'était Coulisses politiques avec le journaliste et écrivain Henri Vernet, un podcast disponible sur Spotify et sur radioorient.com.
C'était Coulisses politiques avec Henri Vernet.